Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes dans 107.5 FM. Et l'émission est aussi écoutable en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Françoise Barrault, pour commencer, bonjour.
Bonjour.
Françoise Barrault, vous êtes ancienne employée à Pôle emploi. Vous êtes ancienne salariée de Pôle emploi et vous êtes ici pour nous parler de la réforme du chômage, tant décriée actuellement par nombre de personnes en France et très médiatiquement relayée aussi. Et nous avons aussi Alexei qui est là aussi pour nous parler des chiffres relatifs à l'occupation du théâtre de Die. Et puis, donc nous découvrirons une espèce de bilan un peu, ou une étape du moins, de ce mouvement d'occupation des lieux culturels. Alors la première nouvelle ce matin, c'est Madame la ministre Roselyne Bachelot qui parlait de libérer les lieux de théâtre. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie ?
Ça veut dire que la ministre rentre dans une relation complètement binaire. Bon, on commence à avoir l'habitude avec ce gouvernement qui fonctionne d'une manière très binaire. C'est-à-dire que on est pour ou on est contre. Et nous, on ne veut pas être opposés aux lieux qu'on occupe. Parce qu'on a occupé ces lieux pour favoriser leur réouverture, mais aussi pour obtenir le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Aujourd'hui, on ne va pas s'opposer à leur réouverture. Par contre, on tient à continuer l'occupation parce que aucune de nos revendications n'est réglée. La prolongation de l'année blanche pour les intermittents, 4 mois, on ne peut pas dire que ce soit une vraie prolongation. La prolongation des droits pour tous les intermittents de l'emploi qui ont été dans la capacité de chercher du travail pendant toute cette période de confinement, déconfinement, reconfinement, de commerce fermé, ne pouvant pas chercher de travail, ces gens-là doivent pouvoir aussi voir leur période neutralisée et avoir une année blanche eux aussi. Voilà.
Justement, les lieux occupés actuellement, que ce soit les théâtres principalement, il y a quand même cette démarche donc d'opérer. La prise en compte des spectacles qui auront quand même lieu sur ces lieux, tout en maintenant cette présence d'occupation des intermittents et des précaires.
Tout à fait, tout à fait. On sera là et on se manifestera et on informera le grand public.
Alexei, donc tu t'es rapproché de cette interview pour nous parler de chiffres relatifs à l'occupation du théâtre. Alors d'abord, pourquoi cette démarche de prendre en compte une espèce d'étude statistique peut-être de ce mouvement dans le Diwa ?
Bien, oui, effectivement, il y a déjà un enjeu qui peut commencer à se dessiner. Déjà, ce sont 2 mois. Donc, on a commencé le 17 mars et on est à 18 mai. Il y a eu 2 lieux qui ont été occupés. Donc, théâtre tout d'abord, ensuite cinéma, le plus long. Et puis encore, on est revenu sur le théâtre. Alors, les chiffres sont importants pour donner une ordre d'idée. Et on a calculé, on estime qu'il y a eu entre 500 et 550 personnes qui seraient passées. Donc, ce qui est assez intéressant. Le noyau au début, les acteurs culturels et artistes représentaient environ 50%, entre 50 et 60%. La première journée, c'était bien plus. Et aujourd'hui, ces 3 dernières semaines, on compte entre 25% et 30%. Donc, c'est important de voir quelle est l'évolution. Pour répondre à votre question. Et ensuite, ce qui est intéressant sur le noyau, donc 500 personnes sont celles qui sont passées plus ou moins. Il y en a qui venaient d'un peu partout parce qu'on avait des Lyonnais, des Lillois qui venaient apporter des gens d'Annecy, qui venaient même dormir. Alors, par rapport au noyau, Ce qui est intéressant, c'est que le noyau qui représente entre 50 et 60 personnes, pas plus, ce sont les occupants. On parle des occupants parce que ce sont qui sont pratiquement depuis le début ici et qui viennent. Eh bien, nous avons constaté que des gens de la ville de Die, il y en a entre 30 et 33 %. Que des gens qui viennent de l'extérieur, il y a entre 10 et 12%, et que du Diwa, il y en a 55%. Donc, ce qui montre un peu le brassage et la territorialisation. Alors, par rapport au Diwa, les villes les plus concernées de ce noyau dur, ce sont Barnave, Manglon, Luc, Châtillon, Romillé et Aurel. Alors, il faut savoir qu'on a même deux personnes de Nyons, une de Bruxelles, et une personne de Grenoble qui font partie de ce noyau dur. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Un premier aspect, donc, Françoise Boireau, donc, vous êtes ancienne salariée de Pôle emploi. Qu'est-ce qui vous a fait en partir de cette profession ?
Ben en fait, j'ai bossé 14 ans. Toujours un peu à la marge. D'abord dans une zone rurale complètement excentrée où je me connectais à l'époque, on était quand même en 2006, je me connectais à Internet avec un modem qui couinait sur la prise du téléphone. Hein. En 2006, c'était déjà complètement obsolète. Hein. Et donc, j'ai toujours fonctionné un peu à la marge puisque à cette époque-là, je me connectais là où j'arrivais à trouver la ligne, là où je pouvais capter quelque chose et recevoir les gens. Et c'était un peu le jeu de piste pour les gens pour me trouver. Ça a été ma première expérience. Après, j'ai travaillé en prison, puisqu'il y a des agents de Pôle emploi dans chaque établissement pénitentiaire. Et c'est quand ma direction m'a signifié que j'allais revenir dans une agence, mais là c'était une agence plus urbaine, où je me suis aperçue que... Le métier que j'avais exercé, moi, pendant 14 ans, c'était plus du tout celui qui était exercé. Moi, quand je me suis retrouvée, parce que ça faisait déjà un bon moment que je n'étais plus vraiment dans une agence, j'étais dans une prison, donc je ne travaillais plus vraiment dans une agence. La première fois que je me suis retrouvée à l'accueil, qu'une personne s'est approchée, que m'a posé une question et que je lui ai répondu. Une fois qu'il a été parti, ma collègue m'a expliqué qu'il ne fallait pas du tout que je fasse comme ça. Que si la personne me posait une question, il fallait que je l'accompagne sur la borne informatique pour l'aider à trouver la réponse toute seule. Et là, je me suis dit, moi, ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, ce n'est pas de faire l'interface entre une machine et une personne. Mon boulot, c'est de recevoir des gens, de les écouter et de les accompagner dans leur projet.
En quelque sorte, vous reprochez la relation humaine dans cette activité qui disparaît en quelque sorte.
Complètement.
Vous parliez aussi d'avoir exercé en prison. Cette activité a cessé ou du moins c'est votre poste qui a été changé ou alors est-ce que cette activité de Pôle emploi au sein d'une prison a été suspendue ?
Ah non, ça continue. Hein. C'est une convention qui est passée entre le ministère de la Justice et Pôle emploi et cette convention perdure. Simplement, pour des raisons propres à ma personne, je ne pouvais plus exercer en détention.
Pôle emploi, pour vous, ça a été une déception à la longue ?
Disons que j'ai l'impression que depuis qu'on a fusionné la NPE dont j'étais issue, c'est-à-dire que c'était un organisme qui était en charge d'accompagner les personnes pour un retour à l'emploi, pour la construction d'un projet, pour la réalisation d'un projet. Et quand on a fusionné donc la NPE avec la CEDIC, j'ai l'impression que c'est un processus qui a démarré de déshumanisation des relations. Et dans un métier d'accompagnement, c'est un processus qui ne peut pas arriver à son terme. C'est impossible. On ne peut pas accompagner les gens par le biais d'une machine.
Justement, Alexei, quelle est la place des demandeurs d'emploi ou des chômeurs dans le Diwa et quelle perception ont-ils justement de cette agence Pôle emploi à l'heure actuelle ?
Ça, il faudrait peut-être demander la question à un expert, mais c'est vrai qu'il y avait des gens, des occupants qui ont proposé d'occuper Pôle emploi, d'aller à Cré et rester là-bas pour faire du bruit. Je voulais juste signaler que par rapport au mouvement d'occupation ici dans le Diwa, c'est vrai que C'est vrai qu'il y a énormément de demandeurs d'emploi et des précaires. Juste une chose par rapport à d'autres... Parce qu'il y a un mouvement national de coordination d'occupation, c'est que dans le DIWA, précisément, il y a comme une sorte de mise à disposition, en fait. C'est qu'aussi bien le directeur du cinéma que le directeur du théâtre, Jean-Pierre ou Hugo... Ils acceptent, donc on pourrait appeler ça comme une occupation plutôt acceptée. Et donc le but d'avoir une délégation de service public qui avec la mairie, donne accès et que favorise, ça montre que c'est quand même un territoire d'arrêt de culture. Et qu'effectivement, comme le pointe souvent l'Amérique, aussi bien théâtre, cinéma, musée, mais aussi école de musique, que les autres communes du DIWA devront faire partie d'une forme ou d'une autre, puisque les usagers ne viennent pas que de DI et que le mouvement est aussi parti d'ailleurs. Donc voilà.
Sur les affiches que l'on voit sur les murs du DI, à propos de cette réforme du chômage, vous citez des chiffres au niveau national où on parle de plus d'un million de demandeurs d'emploi qui vont se retrouver avec une allocation diminuée de 17% pour commencer. Ensuite, plus de 800 000 aussi qui toucheront moins de 24% qu'à l'habitude. Et pour finir, les personnes qui auront travaillé au SMIC pendant 6 mois se retrouveront dévalorisées d'une indemnité qui passera de 975 à 659 euros par mois. Ça, c'est une représentation nationale au niveau des chiffres. Mais est-ce que, par exemple, dans les DIWA, vous avez une certaine statistique aussi de ces personnes ? Et est-ce que vous arrivez à toucher beaucoup de personnes dans cette situation de chômeurs ou de précarité ?
Alors, ces chiffres, c'est des chiffres nationaux. Dans le DIWA, non, je ne sais pas comment on pourrait avoir accès à des chiffres. Il faudrait qu'on ait accès aux fichiers de Pôle emploi. Ça m'étonnerait qu'ils nous les communiquent de bon gré. Donc, non, on n'a pas accès aux chiffres locaux.
Par contre,
ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement l'histoire qu'une personne qui a travaillé 6 mois touchera 600 euros au lieu de 980. C'est une disparité, c'est-à-dire que 2 personnes qui ont travaillé 6 mois ne seront pas logées à la même enseigne selon qu'elles ont fait leurs 6 mois en continu ou leurs 6 mois en pointillé. C'est une inégalité de traitement qui est inadmissible. De la même manière que 2 personnes qui ont eu le même cursus, mais qui, derrière, quand elles se retrouvent au chômage, travaillent 1 mois sur 2, par exemple, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que certains, c'est 1 mois plein, d'autres, c'est à cheval du 15 au 15. Là aussi, il y aura une très grosse disparité, puisque l'étude de l'UNEDIC indique que la différence serait de 1 à 47. C'est-à-dire que celui qui travaille du 15 au 15 toucherait 47 fois moins que celui qui travaillerait du 1er au 31. Donc, il y a quand même des grosses ruptures d'égalité qui font que cette réforme est inacceptable. Au-delà même du fait que 17%, c'est le chiffre pour les 200 ou 300 000 personnes qui seront les moins impactées par la réforme, mais ça peut aller jusqu'à 43% en moins.
Cet engagement de votre part, Françoise Boirot, qu'est-ce qui l'a motivé au départ ? On connaît bien cette inégalité depuis des décennies au niveau des indemnités de chômage et aussi tout simplement du quotidien qui est de plus en plus difficile pour beaucoup de monde. Est-ce que on pourrait penser peut-être au traitement médiatique de cette réforme du chômage ou simplement aussi de la prise en compte de ces conditions de vie de ces personnes ?
Non, cette réforme est une vraie rupture par rapport à toutes les réformes qui ont pu y avoir précédemment. Parce que précédemment, le droit était calculé par rapport au temps de travail. Et c'est-à-dire qu'une personne qui avait travaillé 4 mois pouvait être indemnisée 4 mois. Si elle avait travaillé 6 mois, elle pouvait être indemnisée 6 mois. Et il y avait surtout un salaire journalier de référence qui était calculé à partir de la moyenne des salaires. C'est-à-dire une personne qui avait travaillé 6 mois, on prenait tous ses salaires cumulés, on les divisait par 182 et ça donnait un salaire journalier de référence. Ce salaire journalier de référence, il est complètement mis à mal. Parce que avec le nouveau système, une personne qui a travaillé des petits bouts par-ci par-là et qui arrive à avoir 6 mois de chômage sur 2 ans, on va prendre ces 6 mois de salaire et on va les diviser par 730, c'est-à-dire 2 années complètes. Donc forcément, l'indemnisation qui en découle est ridicule. Alors, comme ces premiers calculs avaient été retoqués par le Conseil constitutionnel, le gouvernement a mis un plancher à 43%, mais il n'empêche qu'on reste encore sur quelque chose d'inacceptable puisqu'on rompt le principe d'égalité de traitement. C'est-à-dire qu'une personne qui a travaillé 6 mois pourrait être indemnisée moins qu'une autre qui a travaillé 6 mois. C'est totalement illogique et inéquitable.
Il y a une impression aussi de frustration, je crois, de certaines personnes vis-à-vis du traitement médiatique de cette réforme du chômage, c'est-à-dire qu'elle est nulle quasiment.
C'est vrai que, on en a très peu parlé au moment où elle devait rentrer en application. Elle a commencé à rentrer en application, partie d'ailleurs à l'automne 2019. Et à cette époque-là, elle ne mobilisait personne. Tout le monde était focalisé sur la réforme des retraites. Après, avec le premier confinement, cette réforme a été suspendue. Ça a été reporté d'abord au 1er juillet, puis ensuite à l'automne. Puis ensuite, maintenant, on en est au 1er juillet de cette année. Bref, elle va de report en report. Entre-temps, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Les occupants des théâtres, donc l'Odéon en premier, puis tous ceux qui ont suivi derrière, dont le théâtre de Die, qui a commencé d'ailleurs au théâtre, qui est parti au cinéma et qui est revenu au théâtre. Une des premières revendications de ces occupants, c'était le retrait de la réforme de l'assurance chômage, avec la prolongation de l'année blanche pour les intermittents et la réouverture des lieux de culture qui étaient fermés. Ça, c'était vraiment la revendication de base. Et cette revendication, elle devient un peu plus médiatisée parce que il y a un chercheur en sciences sociales qui s'appelle Mathieu Grégoire qui a sorti des modélisations. Ces modélisations ont été prises en compte par l'UNEDIC, qui a même accentué le trait, puisque Mathieu Grégoire lui parlait d'un écart de 1 à 24, l'UNEDIC parle de 1 à 47 en termes d'indemnisation. Et donc, on ne peut pas dire que cette réforme, c'est comme toutes les autres. Elle est vraiment en rupture avec toutes les autres, qui les autres, quand on prévoyait un mode de calcul, il était valable pour tout le monde.
Est-ce que vous avez connaissance d'une justification de cette réforme depuis les autorités?
Alors, j'en ai pas, parce que j'ai pas de lien avec les autorités, mais...
Mais à titre informatif, il n'y a aucune raison qui soit lisible ou on puisse s'informer.
Si. La raison, c'est qu'il faut faire des économies. On a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Hein. On donne 7 milliards d'euros à Air France pour se relancer suite à la crise du Covid. Donc, on va demander aux plus pauvres des pauvres de payer 2,3 milliards d'euros. C'est la facture qui est laissée à la charge des allocataires de Pôle emploi.
Il y a cette réforme qui est passée, je suppose, au niveau des parlements, hein, que ce soit au niveau des députés et du Sénat, ou c'est en cours encore ?
Non, ça s'est passé en 2019.
Donc ça s'est fait, mais parliez du Conseil constitutionnel.
En fait, ça s'est passé en 2019. Oui. En 2019, c'est les partenaires sociaux qui devaient négocier la nouvelle convention de l'assurance chômage. Et Macron avait décidé d'y mettre un cadre, c'est-à-dire d'imposer 2 milliards d'euros ou 3 milliards d'euros d'économie. Et les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord dans ce cadre-là. Ce qui fait que Macron a décidé de reprendre la main, de légiférer, et il est passé par des décrets. Et c'est des décrets qui ont été signés, qui ont été attaqués au Conseil constitutionnel une première fois par les syndicats. Le Conseil constitutionnel a reconnu le recours des syndicats comme valable. Le gouvernement a dû revoir sa copie et c'est comme ça qu'il a re-signé un nouveau décret au mois de, je ne sais plus, c'était en mars ou en avril, pour revalider sa nouvelle mouture et qui doit être à nouveau devant le Conseil constitutionnel. Les syndicats, je crois que c'est ces jours-ci qu'ils doivent déposer.
Françoise Boireau, vous avez donc exercé au sein de Pôle emploi. Est-ce que vous avez gardé contact avec des collègues et de manière à pouvoir rester un petit peu informé ou d'être au moins un petit peu au fait de ce qui se passe actuellement dans les agences de Pôle emploi, par exemple, avec cette réforme et puis ces nouveaux calculs, ces nouvelles prises en compte qui permettent d'écarter de plus en plus certaines populations?
Oui.
Vous gardez contact, hein, c'est
oui,
ça
oui.
Et donc, ça vous permet aussi de voir l'évolution de ces inégalités qui vont grandissantes. Et on parle aussi de ces drames d'exaspération de certaines personnes. Des fois, ça finit dramatiquement. On en a entendu parler quelques cas il y a quelques semaines ou quelques mois. Cette tension, elle s'observe aussi au niveau de ces agences. Est-ce qu'on pourrait penser aussi que ces emplois sont au bord du burn-out?
Alors, il y a plusieurs choses, parce que déjà, effectivement, il y a une violence qui ne fait que monter depuis quelques années dans les accueils de Pôle emploi. Cette violence, elle est liée à l'intensification des contrôles qui sont parfois faits sans discernement, des contrôles qui sont pas toujours utiles. Enfin, moi, je me suis retrouvée une fois comme ça avec un de mes détenus dont le dossier était en cours de contrôle par le service de contrôle de la recherche d'emploi. Le gars, il était incarcéré, il ne faisait aucune démarche. Donc, comme le prévoyait la procédure, tous ces courriers arrivaient dans mon agence à mon intention. Et c'est comme ça que j'ai reçu le courrier du service du contrôle de la recherche d'emploi l'informant d'un contrôle. Le gars, il était dans une catégorie particulière, la catégorie 4, qui fait qu'il n'est pas disponible immédiatement pour occuper un emploi, mais le service de contrôle de la recherche d'emploi allait contrôler sa recherche d'emploi. Est-ce qu'il était actif ou pas? Donc on a quand même parfois des erreurs qui sont quand même graves et des manques de discernement face à des situations personnelles qui peuvent être dramatiques et pour lesquelles l'agent contrôleur ne prend pas en compte tous les paramètres. C'est d'ailleurs reconnu par le médiateur de Pôle emploi qui reconnaît, c'est une information qui est sortie assez récemment, qui reconnaît que certains contrôles ou certaines sanctions sont disproportionnées.
La plupart du temps, ces contrôles s'opèrent aussi par robot, j'imagine.
Non.
Non, c'est uniquement fait par la main de l'homme.
Tout
donc.
À fait.
J'avais une question là-dessus, justement. Par rapport à la dématérialisation, elle n'a pas prise actuellement sur le secteur de Pôle emploi?
Ben si. La plupart des échanges,
à quel niveau?
La plupart des échanges sont dématérialisés. Hein. Quand on veut voir son conseiller, ben, il faut lui envoyer un mail, lui dire « je voudrais un rendez-vous ». Et puis ça peut parfois être très long. Tout dépend des agences. Hein. Je sais qu'ici, à Cray, en ce qui me concerne, puisque moi aujourd'hui je suis inscrite à Pôle emploi, quand j'ai essayé de contacter mon conseiller, la réponse a été rapide. Ça, j'ai pas eu de souci de ce côté-là. Après, j'ai eu d'autres expériences familiales où les personnes n'arrivaient pas à joindre leur conseiller. Ils écrivaient un mail, deux mails, trois mails. Ils finissaient par aller à l'agence pour se faire dire « Non, mais il faut vous contacter votre conseiller par mail. » Bon, bah, et c'est comme ça qu'on arrive à provoquer en fait de la violence. Parce que les gens arrivent excédés, soit parce qu'ils ont reçu un courrier incompréhensible de Pôle emploi, soit parce qu'ils n'arrivent pas à joindre leur conseiller, soit parce qu'on leur réclame un trop perçu et qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre. Et je dirais que la violence à l'accueil, c'est souvent le dernier recours de ces gens-là. Ça ne l'excuse pas. Hein. La violence n'est jamais acceptable. Mais moi, il m'est arrivé de me retrouver devant des gens qui étaient très remontés, qui arrivaient énervés et de ne pouvoir que leur donner raison par rapport au motif de leur énervement qui était parfaitement légitime. Après, je ne dis pas que tous les gens qui arrivent à Pôle emploi, ils ont forcément raison, mais il faut quand même prendre le recul et le temps d'analyser la situation. Et je pense que ça, c'est ce qui manque le plus aux conseillers. Ils n'ont pas le temps, ils sont submergés.
fut un temps où on a parlé aussi de privatiser Pôle emploi et de donner la belle part à des entreprises privées pour gérer des demandeurs d'emploi, surtout au niveau des cadres. C'est plus rentable, je suppose. Qu'en est-il de cette privatisation du service de Pôle emploi actuellement ?
C'est une expérience qui avait eu lieu, ça s'appelait les opérateurs privés. Et en fait, ça n'a pas fonctionné du tout. C'est-à-dire que le résultat a révélé que leur résultat était inférieur à ceux des agents de Pôle emploi et qu'ils coûtaient plus cher.
Pourtant, on promettait monts et merveilles, hein, avec toujours les nouvelles réformes, c'est toujours pareil. La dématérialisation aussi, c'est donc le réseau informatique qui n'est pas forcément fiable. Encore la semaine dernière, nous-mêmes, nous avons eu quelques soucis avec un bureau de Pôle emploi par rapport à un de nos salariés parce qu'il n'avait pas accès à son service informatique pour pouvoir gérer le dossier de notre salarié. Est-ce que Pôle emploi est-il bien doté aussi pour traiter toutes ces personnes demandeuses d'emploi ?
Je pense qu'en termes de matériel, effectivement, il doit y avoir à peu près ce qu'il faut, mais c'est en termes d'effectifs, parce qu'un agent peut avoir parfois plus de 600 demandeurs d'emploi dont il est l'interlocuteur. Ça ne veut pas dire que ces 600 personnes vont le contacter, mais il y a quand même vraiment beaucoup de travail pour ces agents pour arriver à répondre à toutes les demandes. Parce que parfois, c'est des demandes qui ne relèvent même pas de Pôle emploi. Il y a des personnes qui sont en telle détresse que ils s'adressent à tout le monde. C'est un service public. Je lui pose mes questions sur l'assurance maladie, sur les impôts. C'est un service public, quoi. Et c'est très compliqué parfois de faire entendre aux gens qu'on n'est pas qualifié pour répondre à certaines questions.
Il y a encore une décennie, j'entendais qu'un agent aurait à traiter 60 dossiers. On est loin du compte, justement, avec votre affirmation de 600 personnes aujourd'hui. Pourquoi ce décalage entre les effets d'annonce gouvernementale et la réalité ? Comment le public peut se retrouver et quelle certitude peut-il avoir sur, justement, la situation du chômage en France, précisément ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque où les annonces avaient été faites, que chaque conseiller serait l'interlocuteur d'une soixantaine de personnes, c'était avant la crise de 2008. Et du coup, effectivement, il y avait une vraie décrue du chômage. Et en ce qui me concerne, effectivement, j'avais beaucoup moins de personnes à voir. Je dirais pas que j'étais tranquille parce que de toute façon, du travail, il y en avait. Mais c'était quand même beaucoup plus calme. Et avec la crise de 2008, au lieu de remettre en cause cette fusion qui n'était pas encore là, mais qui était déjà dans les tuyaux, ils ont décidé d'accélérer. Et ils ont désorganisé deux structures, même trois, parce qu'il y avait l'AFPA aussi qui a été complètement démantelée par cette fusion. Ils ont désorganisé des structures qui tournaient, vaille que vaille, mais qui tournaient. Je ne vous dis pas que tout était parfait, hein, que ce soit à la NPE ou à la CEDIC. Bon, il y avait certainement beaucoup de choses à faire encore. Mais ça tournait. On arrivait à être des interlocuteurs identifiés pour d'un nombre plus restreint de personnes. Et quand cette crise est arrivée, il aurait fallu recruter massivement pour pouvoir maintenir le niveau de service qu'on offrait aux gens. Et ça ne s'est pas fait, puisqu'il fallait fusionner, réduire des effectifs qu'on n'a pas réduits du tout, du coup. Et en fait, on s'est retrouvé en situation de devoir absorber une masse de chômeurs supplémentaires sans avoir d'employés en plus, sans avoir de collègues supplémentaires pour nous épauler.
Depuis des décennies, les gouvernements successifs se lancent aussi sur des modules ou des systèmes qui permettent un retour à l'emploi. Est-ce que, avec les années passant, il y aurait eu mieux à faire ?
Ça, je pense que tout le monde pourrait dire qu'on aurait pu faire mieux. Après quoi ? Ça, c'est à voir. Moi, en ce qui me concerne, en tant que conseillère en milieu rural à l'époque, j'utilisais les contrats aidés comme ascenseur vers l'emploi, c'est-à-dire ce qui était leur finalité. Mais ce n'était pas une habitude. Je travaillais notamment avec les mairies dans un secteur dans le Rhône. Et ce que je faisais, c'est que je prenais le temps de recevoir les personnes qui voulaient rentrer en contrat aidé dans une mairie, quel que soit le poste, pour définir avec elles leur projet professionnel, mettre en place les étapes pour le réaliser, impliquer la mairie dans cette réalisation, faire financer à la mairie certaines formations, ou alors faire financer des heures de stage dans des entreprises par la mairie, c'est-à-dire que comme la personne était en contrat aidé, elle faisait ses stages sur son temps de travail à la mairie pour être rémunérée pendant son stage. Et avec ça, on partait sur une finalité d'emploi dans le secteur marchand à la sortie du contrat à la mairie. Et pour moi, c'était une méthode, c'est comme ça que ça aurait dû tourner, quoi. Simplement, les administrations et l'éducation nationale en premier utilisaient ces contrats aidés pour pallier leur manque d'effectifs. Ce qui fait qu'ils remplaçaient des personnels qualifiés par des personnes en insertion qui n'étaient pas forcément qualifiées, qu'elles formaient sur le tas à leur poste et qui restaient au maximum 2 ans et qui ensuite revenaient au chômage sans rien avoir apporté à la personne. Du coup, pour moi, ces emplois jetables, ça ne servait à rien. Et c'est pour ça qu'à ma petite échelle, j'ai essayé d'en faire quelque chose. Je ne vous dis pas que j'ai fait des miracles, mais ça a permis des embauches, des qualifications de personnes qui ont favorisé ensuite leur retour à l'emploi.
Ces emplois, la plupart sont précaires, encore plus pour des personnes qui sont indemnisées avec le RSA, qui se retrouvent ponctionnées dans leur indemnité dès qu'elles ont trouvé un peu d'argent rémunéré d'un travail. Et là aussi, il y a un sentiment d'inégalité, en quelque sorte, et parfois même que les personnes se retrouvent avec moins d'argent en ayant travaillé que si elles n'avaient pas travaillé.
Tout à fait. Et avec la nouvelle réforme, ça sera encore pire. Puisque avec la nouvelle réforme, à partir du moment où les personnes travaillent un petit peu, elles se verront complètement supprimer leur allocation de chômage. Donc elles n'ont pas intérêt de travailler. De la même manière que pour s'ouvrir des droits à un niveau décent, il faudrait qu'elles aient au minimum un contrat de 6 mois d'affilée. Parce que si elles ont 3 semaines par là, 2 jours ici, 1 mois ailleurs, et qu'elles arrivent comme ça à cumuler 6 mois, là, elles seront touchées de plein fouet par cette réforme, puisqu'on divisera leur rémunération par 730 jours. Donc, pour moi, là, cette réforme, on marche sur la tête.
Quelle est la place de l'éthique aujourd'hui dans le secteur de Pôle emploi ?
Tout dépend des personnes. Il n'y a pas de règles, tout dépend des conseillers. La plupart des conseillers font de leur mieux avec leur intégrité à eux, mais tout dépend des conseillers. Après, c'est vrai que du côté de la direction, ils ont tendance à faire passer les contingences économiques au-dessus des contingences éthiques. Et ça, je pense que pour la plupart des agents de terrain, c'est un gros dilemme.
J'imagine que vous avez dû avoir souvent le cœur retourné pour des situations. Est-ce que ça, c'est une prise en compte pour les salariés de Pôle emploi de se retrouver confrontés avec une misère du monde quelque part ?
Je dirais que ça, on est quand même formé. On est armé à ne pas s'émouvoir et pleurer avec les gens parce que sinon, on ne les aidera pas. Mais par contre,
j'imagine bien, mais le soir, ou je ne sais pas si il y a une prise de conscience de ces situations et qu'ils puissent ensuite être remémorés, et je ne sais pas, et à savoir, à se poser même la question, pour quelle finalité exercer cette activité ?
Je dirais que ce qu'on entend, moi à titre personnel, j'entends les gens, je mets en œuvre tout ce qui est possible, tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider, pour leur permettre d'accomplir leur projet, pour leur permettre de se réaliser. Mais après, une fois que la personne est partie, moi le soir, je peux dire que je ne sais même plus le nom des personnes que j'ai reçues. Je fais une espèce de barrière, parce que sinon, ça parasiterait complètement ma vie privée. Et effectivement, je pense que pour certains agents, c'est plus difficile. Et de ce côté-là, je pense que Pôle emploi ne prend que très peu en compte cette souffrance qu'il peut y avoir. Ça, c'est un moment, Pôle emploi en Auvergne-Rhône-Alpes avait recruté une psychologue clinicienne pour s'occuper de ses agents. face au peu de moyens dont elle disposait et puis à la dépendade qu'il y avait en face, elle est partie.
Alexei, je reviens vers vous. Par rapport à donc, ce bilan que vous avez établi, on peut remarquer donc, une baisse de présence des artistes actuellement depuis quelques semaines, puisqu'on peut pressentir aussi une reprise de leur activité, et donc ils sont moins présents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ce mouvement a été lancé par les intermittents. Très vite, se sont ajoutés les précaires, avec cette réforme du chômage, entre autres. Et puis aussi tout un tas de personnes avec des revendications ou des demandes très variées. Qu'est-ce que ça peut produire justement au niveau de cette occupation de théâtre? Qu'est-ce qui ressort de cette entité en quelque sorte sur ces lieux?
Comme vient de le dire Françoise, il y a de la souffrance. Certaines personnes se radicalisent plus que d'autres, pas toutes. Parmi les intermittents, il y a le système d'intermittence n'est pas une aubaine. Enfin, il y a eu des abus aussi, des part et d'autre. Enfin, et donc du coup, les précaires se retrouvent parfois et parfois non. C'est-à-dire que dans la convergence de lutte, il y a eu des disparités et parfois il y a eu même de retrouvailles malheureuses qui n'ont pas eu lieu ou qui l'ont eu, mais donc du coup ce que vous venez de pointer c'est intéressant, mais il faut se dire que c'est pas parce que ça repart, l'activité repart pour les artistes, que des artistes au tout début, les trois premières semaines, nous avons vu beaucoup d'artistes partir, et non parce que l'activité partait, mais parce qu'ils ne se sentaient plus représentés. Et c'est-à-dire qu'il y en a qui, nous, là, le mot d'ordre, c'était le respect de tout un chacun. Il faut savoir qu'il y en a qui sont que pour l'ouverture des lieux culturels. Et donc, lorsque ceux qui sont pour l'ouverture des lieux culturels voient arriver des gens qui sont soit pour les sans-papiers, pour les féminismes, pour d'autres types de luttes... tout à fait respectables les unes que les autres. Et ce qui est difficile, c'est de retrouver l'équilibre, la stabilité, cette symétrie des revendications. Et parfois, il y a eu... Mais tout mouvement autogéré a des conséquences, enfin, des moments difficiles et des frustrations et des uns et des autres. Et il y en a qui lâchent pour des différentes raisons. Et voilà. Mais c'est ça, ça fait partie.
Et puis, il y en a qui reviennent.
Il y en a qui reviennent.
La convergence des luttes, vous en parlez, est-ce que ça peut être une réalité ou alors une utopie?
C'est une réalité, on appelle à manifester tous ensemble samedi, hein. Donc ça c'est une réalité et c'est pas une utopie, c'est quelque chose de concret. Donc on donne rendez-vous à tout le monde samedi à 13h pour manifester ensemble dans le cadre de la convergence des luttes, puisqu'on est tous dans le même bateau.
Alors, Yanas, pour certains, donc là, il y a quand même un point qui est celui d'un avenir transformateur, d'un projet de civilisation, d'une société différente. Et donc là, personne discute. Alors après, les formes, c'est différent. Effectivement, il peut y avoir plus d'utopie que d'autres, mais...
À votre connaissance, puisque c'est un mouvement national avec plusieurs, au-delà d'une centaine d'occupations de théâtre culturel, de lieux culturels du moins, est-ce qu'on peut y trouver une certaine similarité entre ce qui se passe dans le Diwa et d'autres contrées? Est-ce qu'il y a ce raccordement de toutes ces populations en précarisation, celle des intermittents
C'est très variable, en fait, d'un lieu à un autre. Donc moi, j'ai fait partie de la délégation d'Iwaze qui est allée à la coordination au TNP à Villeurbanne fin avril. C'est assez hétéroclite, mais de partout, en fait, de toute façon, il y a quand même un réel vœu de convergence. C'est-à-dire que même à l'Odéon, où c'est beaucoup plus des intermittents, beaucoup plus des artistes qu'ailleurs, on est dans la convergence parce que la revendication première, c'est le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Et cette réforme, elle concerne tout le monde, elle ne concerne pas que les intermittents.
Vous parliez donc de cette manifestation du 22 mai qui aura lieu à Die, entre autres. On pourrait peut-être aussi donner le programme de ce qui est proposé pour cette journée. À partir de quelle heure vous serez dans l'espace public ?
Le rendez-vous est à 13h devant le collège, devant la cité scolaire. Et après, il y aura une déambulation dans la ville. Pour l'instant, on n'a pas encore déposé, donc on ne peut pas parler du parcours. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on voudrait terminer au théâtre et par une agora, des interventions, diverses et variées, quoi.
Vous avez aussi certainement un moyen d'information par des réseaux sociaux ?
Oui, il y a une page Facebook.
Qui s'appelle ?
Je sais pas. J'ai pas de compte Facebook.
Alors, nous avons la page Facebook du Théâtre de Die. Ensuite, on a Ricochet. Là, il y a toute la programmation qui est actualisée. Ouais. Mmh. Et après, il y a effectivement le journal de Diwa qui parfois émet des choses. Mais nous, ce qu'on souhaite vivement, c'est que les gens viennent, osent venir s'informer et passer le cap.
Et participer.
Hein ?
Et participer, oui.
Voilà, c'est le bouche-oreille qui fait le tout, la force. Vous avez parlé de lieux culturels, mais il n'y a pas que la réflexion des lieux culturels. Il y a aussi la réflexion qu'une fois que les lieux culturels seront ouverts et qu'ils vont marcher normalement, enfin, je pense qu'il faut un peu de temps. Moi, je pense que la ministre de la Culture lance... Je crois pas trop à la ministre de la Culture, ce qu'elle a lancé ce matin.
Mais un pavé dans l'eau.
Oui, c'est juste. Et donc, il y a une partie des occupants qui réfléchissent à avoir une maison du peuple, c'est-à-dire un lieu qui ne soit pas uniquement culturel, mais que ça soit un lieu où on puisse vraiment avoir une réflexion autre que la culture.
Un lieu ouvert à tous, où chacun pourrait venir proposer et affirmer ses idées, quoi.
Oui, ces maisons de peuple qui ont souvent commencé avec le Front populaire, j'imagine, et puis surtout à l'après-guerre, pour ensuite socialiser la population après ces années d'occupation, j'imagine. Il en existe une qui est très belle, c'est celle de Saint-Claude. Mmh. Une très belle maison du peuple, on pouvait y trouver un café, restaurant, mais il y avait une imprimerie, une bibliothèque, énormément d'activités culturelles en tout cas, avec de réels ateliers d'occupation et où on pouvait apprendre aussi, surtout.
Alors cette revendication de maison du peuple, elle est très locale chez nous. Il y a d'autres théâtres aussi qui la reprennent, mais c'est pas une revendication de la coordination nationale. C'est vraiment chez nous, ça.
Françoise Boirot et Alexei, je vous remercie tous deux d'être venus nous parler donc de cette occupation du théâtre et puis celle du cinéma auparavant. Et donc, je vous rappelle cette date de manifestation, ce 22 mai à 14h devant... 13h, devant le lycée du Diwa. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne soirée.
Merci.
Merci.
Au revoir.
embrasse un peu.
Thank you.